Et voilà, commencé il y a 15 ans, la grande aventure du TGV, le train à grande vitesse.
Dans la grande histoire des chemins de fer, une naissance et un baptême aujourd'hui, ceux du TGV.
Avec l'inauguration par le président de la République.
Eh bien, ça va aller vite ce soir dans le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question de la Mayenne, de la France, de complots, du net, de grottes, d'informations continues et même de Cyril Hanouna. Avec Aurélien Bélanger qui publie L'aménagement du territoire, un roman qui imbrique une atmosphère feuilletonesque avec des digressions techniques portées par une écriture frénétique. Lucille Comeau.
Un roman géographique ou comment faire de l'aménagement du territoire le lieu du déchaînement idéologique, géologique et métaphysique.
19h30, une nouveauté dans le rendez-vous Place Net, NET pour Xavier Delaporte. Qui signe ce soir sa première chronique du jeudi Place de la Toile en partenariat avec Rue 89. 19h35, plateau continu avec Laurent Guimier, le nouveau directeur de France Info, ou comment adapter l'information aux nouvelles technologies. Et l'inverse est vrai, Benoît Lagane.
Et l'occasion de faire le point sur une nouvelle étape dans l'itinéraire d'un enfant gâté de la radio, 27 ans après ses premiers pas dans une radio locale. Laurent Guimier, après Europe 1 et Le Figaro.fr, relance France Info 27 ans après sa création.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le tout nouveau journal de la culture de Zoé Svez.
5, 4, 3, 2, 1... Top LC.
Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Info.
Top LCI, c'est notre son du jour, un son vintage.
Un son vintage, on est le 24 juin 1994, jour du lancement de la chaîne d'information payante de TF1. Maintenant, LCI, c'est fini, en tout cas telle qu'elle existe actuellement. C'est ce que dit ce jeudi l'un des représentants syndicaux de la chaîne, Philippe Ballard. Selon lui, la direction a été très claire lors du dernier CE. Alors qu'adviendra-t-il de la chaîne d'info de TF1 et de ses quelques 200 salariés? Une simple news factory avec seulement une vingtaine de journalistes, une chaîne locale pour l'Île-de-France ou encore autre chose? Attendue d'ici une quinzaine de jours.
Et à présent, eh bien, le dossier du jour. Non, il n'y a plus 5-4-3, c'est fini, c'est juste un écho. La Bibliothèque nationale de France lance un appel aux dons pour acquérir un manuscrit rare du XVIe siècle, une opération séduction mécénat, Zoé.
Et oui, effectivement, on est carrément dans un autre monde, celui de la bibliothèque. Alors ce manuscrit rare, il a été commandé par François Ier. Il reprend l'un des plus grands textes antiques, les 12 Césars de Suétone. Mais ce qui fait sa valeur, c'est que le bon François en avait confié l'illustration à Jean Bourdichon, la star des enlumineurs de l'époque. Après maintes aventures, il est aujourd'hui entre les mains de l'un des plus grands libraires spécialisés en ouvrages anciens. Et la BNF l'a fait classer trésor national, ce qui fait qu'elle a la priorité pour l'acheter pendant 3 ans. Problème, les 12 Césars valent plus de 2 millions d'euros. Un luxe que la bibliothèque ne peut plus se payer, comme l'explique son directeur Bruno Racine.
C'est plus possible sans le mécénat, pratiquement. C'est vrai aussi pour les musées. On sait très bien que les crédits budgétaires ne permettent pas ou très difficilement de faire face à ce type d'acquisition. Vous voyez, plus de 2 millions d'euros, n'aurions pu rien acheter d'autre. Donc, pensez au manuscrit de Casanova qui coûtait plus de 7 millions d'euros. C'est le type d'opération qui ne peut être faite que par de mécénats.
Alors évidemment, la BNF a déjà fait appel à ses mécènes habituels, mais elle lance aussi une souscription publique, ce qui est très rare, mais pour quelle raison?
Eh bien d'abord parce que même si faire appel au grand public, ça peut paraître comme ça assez vain, eh bien en fait c'est assez efficace, mais alors attention, ça ne marche pas avec tout. Pour que les particuliers ouvrent leur bourse, il faut, soyons clairs, jouer le jeu de la fibre patriotique, la France, la grandeur de la France et la nostalgie. D'ailleurs, la seule fois où la BNF a déjà eu recours à la souscription publique, c'était il y a 2 ans et c'était déjà pour un manuscrit royal, le livre d'or de Jeanne d'Albret, et Bruno Racine avait été surpris par le succès de l'opération.
Nous avions réuni le quart de la somme grâce à cet appel au public. Cette année, pour un document, un manuscrit qui parle, je pense au français, parce que François Ier, 1515 Marignan, tout le monde apprend ça presque au berceau. Nous pensons que voilà, c'est un objet digne de, je dirais, l'affection des Français. C'est vrai que, par exemple, quand nous avons acquis les archives de Michel Foucault, qui était classé trésor national, c'était moins évocateur, je dirais, pour le grand public. qu'un manuscrit de François Ier.
Mais le but de cette souscription, c'est aussi bien sûr de faire du bruit.
Évidemment, alors la BNF, elle a déjà ses mécènes privés, mais en lançant une souscription publique, elle a accès non seulement aux particuliers, mais surtout à des chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément pensé au mécénat, des PME, etc. Et ce sont en fait, elles, les véritables cibles de la BNF. Ce sont les entreprises, et Bruno Racine ne manque pas de le rappeler à chaque interview. Aider la BNF, c'est très avantageux pour les patrons.
Lorsqu'un bien culturel est déclaré trésor national, les particuliers, évidemment, peuvent y contribuer. Ils bénéficient de l'avantage fiscal habituel des dons, c'est-à-dire 66%. Mais, et ça c'est unique au monde, il y a aussi les entreprises. Et là, l'avantage fiscal est encore plus important. 90% de déduction de l'impôt sur les sociétés. Alors il faut évidemment que l'entreprise ait de l'impôt sur les sociétés à payer, ce qui veut dire qu'elle ait fait des bénéfices.
Alors voilà, cette souscription, elle est ouverte jusqu'au 28 octobre prochain. Mais on souligne bien à la BNF qu'on n'est pas tatillon et que si certains souscripteurs se manifestent un peu plus tard, eh bien, on prendra leur don avec plaisir.
Je vous voyais très attentif à ce dossier, Laurent Guimi, à moins que vous soyez un excellent acteur. Vous voudriez apporter un commentaire?
Non, bah effectivement, l'État aujourd'hui a les problèmes budgétaires qu'on connaît. Donc effectivement, il y a toujours un petit côté hérétique, je pense, à évoquer ces questions de business dans les couloirs et sous les ors de nos musées, de nos bibliothèques. Moi, je trouve ça plutôt efficace. Et la façon assez décomplexée dont en parle Bruno Racine, moi, je pense correspond à peu près à l'époque dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'effectivement, un patron de la BNF parlait des déductions fiscales en faisant, via votre micro, une sorte d'appel au grand patron. Je trouve ça pas forcément si étonnant et si scandaleux que ça.
On finit avec les brèves ?
Et oui, le gouvernement promet une grande concertation autour de la loi sur le numérique. C'est ce qu'annonce en tout cas Axel Le Maire, la secrétaire d'État chargée du numérique. Elle dit vouloir entendre tous les acteurs possibles sur les enjeux économiques, sociétaux et juridiques de cette loi qui doit arriver au Parlement au printemps 2015.
Et justement, suite du feuilleton Netflix.
Le géant américain de la VOD qui arrive en France dans 10 jours maintenant a conclu aujourd'hui un contrat avec la SACD et l'ADAGP, deux organismes de gestion des droits d'auteur. Il n'y a pas eu de favoritisme, indique la SACD. Netflix sera au même régime que les télévisions, les opérateurs de télécom ou les plateformes comme YouTube.
Le canard enchaîné rattrapé par la crise de la presse.
Oui, jusque-là, c'était un peu l'exception. Ouais. Le journal satirique, qui a toujours été réfractaire à la publicité et qui n'a jamais augmenté son prix de vente depuis 23 ans, accuse un sérieux coup. En 2013, ses ventes ont chuté de 16%. Le journal explique que, comme sous Mitterrand, eh bien, l'arrivée de la gauche au pouvoir lui fait beaucoup de mal.
Et la dernière.
Alors, c'est l'histoire de la naissance d'une artiste grâce au numérique. Alors, est-ce qu'elle mérite vraiment le nom d'artiste? C'est à vous de juger. Claire Wyckoff, c'est son nom, est une publicitaire américaine. Elle vit à San Francisco, hyper connectée, très healthy, comme il se doit. Tous les jours, elle fait donc son jogging avec l'application Nike Plus Running, une application qui vous permet de visualiser sur une carte le trajet que vous avez fait en courant. Et puis, un jour, elle découvre qu'elle a réalisé, sans le vouloir, un trajet en forme de cœur, découverte qui décuple sa créativité.
Depuis, oui, c'est une artiste. Oui.
C'est une artiste.
On juge, pardon.
Eh ben oui, elle court pour faire des dessins depuis sur cette appli. Elle a réalisé des joggings en forme de Space Invader, des doigts d'honneur. Et surtout, elle a développé évidemment une spécialité un peu salace, vous vous en doutez Laurent. Elle court et elle court pour dessiner des pénis de toute taille et de toute forme, parfois à l'échelle de la ville entière. Même si, dit-elle, eh bien, ça lui demande beaucoup de temps de trouver chaque jour des nouveaux trajets en forme de pénis. N'empêche que ça paye, car elle est suivie par plus d'un millier de personnes sur Twitter et Instagram qui portent au nu cette performeuse des temps modernes.
Est-ce qu'il y a des réactions à tout ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités, entre consternation et fou rire? Aurélien Bélanger, peut-être?
J'ai fait un demi-tour des boulevards des Maréchaux une fois avec une application, et quand je suis rentré chez moi, j'ai vu que j'avais fait un demi-cercle, et j'étais hyper heureux.
Demi-couille, alors?
Ouais, un peu, mais bon, j'avais pas pensé...
À ça, précisément. À ça, mais... D'accord, très bien. Autre information, peut-être, je sais pas, sur Netflix ou sur même LCI? Laurent Guimier.
Oui, le canard enchaîné, c'est intéressant.
Oui, c'est intéressant.
Parce qu'effectivement, on se dit que le canard enchaîné... Alors, l'explication politique, moi, j'y souscris pas trop. Je pense que c'est l'évolution des médias en ligne. Et puis, moi, ce que j'appelle aussi l'amélioration du journalisme, enfin, on en parlera, en ligne, qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que l'on trouvait dans le canard enchaîné, aujourd'hui, se retrouve sur des sites.
Peut-être même en amont.
et peut-être mettre en amont. Voilà, il y a pas de. Je pense que le canard devra se réformer aussi et trouver une autre forme d'expression que la bonne vieille feuille papier, sans tuer forcément le canard enchaîné et sans faire disparaître cette très 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 belle rédaction.
Mais sur des sujets d'investigation, par exemple, ouais, ça reste encore un réflexe pour certains journalistes d'aller voir le canard et
évidemment
pas forcément aller voir d'autres journaux.
Non, évidemment. Mais il n'y a pas que les journalistes qui achètent les journaux, malheureusement.
Et en général, heureusement, souvent, plutôt.
C'est pas eux qui les payent. C'est ça le problème.
Xavier Delaporte, est-ce qu'il y a un dossier sur lequel vous voudriez intervenir ?
Peut-être revenir sur La vie des 12 Césars de Suéton, parce que je pense que c'est une lecture qui est très très saine après la sortie du livre de Valérie Trierweiler, pour observer à quel niveau le pouvoir a toujours été un exercice qui frisait l'obscénité. Enfin, il faut relire les passages de la vie de Tibère, par exemple, qui avait des activités dans les piscines. Voilà.
En forme de quoi ?
De haricots.
De haricots. Très bien.
Voilà, par exemple. En toutes les pouvoirs, formes. La pornographie et le pouvoir ont toujours fait bon. On était proches.
19-20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau très grande vitesse avec vous, Aurélien Bélanger, écrivain. En 2012, vous aviez signé le grand premier roman de la rentrée littéraire, La théorie de l'information. Et puis cette année, deuxième roman, L'aménagement du territoire. Et c'est l'histoire d'un petit territoire, celui de la Mayenne, qui prend des dimensions de centre à la fois historique et géographique de l'univers entier. Un lieu d'implantation de routes et de lignes ferroviaires, un lieu de rivalité familiale ancestrale, un lieu de fracture géologique majeure, un lieu de déchaînement mythologique enfin. Et tous ces éléments convergent vers une fin digne d'un roman d'espionnage. Alors d'abord, un mot sur la Mayenne, qui est aussi le territoire associé à une partie de votre enfance. Vous y êtes né, vous avez passé une partie de vos vacances. Qu'est-ce qui a déclenché véritablement le récit ? Est-ce que c'est un souvenir ? Est-ce que c'est un lieu précis ?
Le percement d'une ligne à grande vitesse, justement, dans des territoires que je connaissais très bien. Donc j'ai vu l'avancée des travaux, donc c'est ça qui m'a donné l'idée. Et j'ai découvert ensuite, en faisant quelques recherches, que si on regardait la Terre de façon à voir tous les océans, et donc rassembler de l'autre côté toutes les terres, selon les théories, le centre de ce qu'on appelle l'hémisphère continental est en Mayenne ou à Nantes. Enfin bon, c'est discutable. Donc c'était amusant que l'endroit le plus négligeable historiquement ou géographiquement pouvait devenir, avec une conception vraiment très tordue de la géographie, le centre du monde.
Alors une autre question anecdotique, j'ai vu sur Twitter, que vous fréquentez beaucoup d'ailleurs, que vous aviez posté des photos ces derniers temps liées à cette géographie. Vous en vélo sur les routes, des cartes, on voit des photos à caractère géologique. Comment est-ce que vous avez étudié ce lieu précisément ?
J'avais des ambitions géologiques très poussées. J'ai lu pas mal de livres de géologie, mais finalement pas assez. J'ai fait un peu de vélo dans le coin. J'ai lu un très bon dictionnaire historique en 4 volumes d'un abbé en 1900, qui est considéré comme un des meilleurs dictionnaires historiques de tout département confondu, d'un peu de l'époque phare de l'érudition à la fin du 19e. Donc, en mélangeant toutes ces choses, je suis arrivé à des choses à peu près conséquentes. Ouais.
Lucille Como.
Ce qui frappe dans votre roman, puis ça s'amplifie à mesure qu'on avance vers la fin, c'est la frénésie qui emporte le texte. Il y a une véritable frénésie qui peut-être vient de votre vitesse d'écriture. Vous écrivez dans quel état ?
Assez vite, même très vite. Je passe après beaucoup de temps à me relire, mais j'essaie d'éviter les moments d'extase trop fortes parce que ça ne fait pas des bons trucs, mais il y a un moment, il faut que ça marche, quoi. Donc ça décolle un petit peu et puis ça va tout seul. Je mets beaucoup de temps à m'y mettre et quand j'y suis, ça va.
Vous avez des rituels d'écriture ? Vous écrivez plutôt le matin, le soir, des lieux ?
Oui, le matin pour être débarrassé. Sinon, la journée est pénible et je la traîne comme un boulet. Donc, plus je travaille tôt, plus je suis heureux. J'ai acheté une casquette de Formule 1. J'ai un casque de chantier pour être un peu isolé du bruit. Et puis
vous présentez ?
Oui, non, vraiment, non. C'est un peu bizarre. Mais,
vous travaillez avec un casque sur la tête ?
Et je le fais maintenant dans le TGV, donc on peut me voir travailler comme ça. C'est un peu ridicule.
Vous corrigez beaucoup ensuite ? Vous coupez énormément ?
Oui, beaucoup, et il faut vraiment que je l'affirme en plus, parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'il y a beaucoup trop de choses, et relativement, non, hein, ça va. Non, je coupe beaucoup, parce que j'ai tendance à écrire vraiment en parallèle à des recherches complémentaires, et je suis comme ça des fils narratifs très très longs, que je dévide jusqu'au bout pendant 4-5 heures, et parfois c'est vraiment vraiment de l'ordre de la digression, et j'ai un peu, ça se voit peut-être pas à la lecture du bouquin, j'espère que ça se voit, j'ai horreur des digressions, alors que bon, le roman pourrait être une longue digression aussi.
En tout cas, il est parsemé de digressions.
Je coupe beaucoup, oui.
Par quoi vous avez commencé ?
Zut, j'ai oublié, ça me revient très précisément. Je me rappelle du moment où ça s'est un peu emballé, c'est en imaginant une fausse lettre d'un personnage avec une théorie du complot derrière. Là, c'est le moment où ça a vraiment décollé dans le romanesque pur. Lettre de Focard, un peu l'empereur gaulliste de la France-Afrique, qui écrit un personnage, parce que Focard était originaire de Mayenne. Mais alors, le début à proprement parler, dans 10 minutes peut-être, là j'ai oublié.
Laurent Guimier, vous vouliez intervenir ?
Et non, mais je me posais exactement la même question sur la façon dont vous écrivez, parce que j'avais lu, dévoré la théorie de l'information il y a 2 ans. Effectivement, c'est tellement fouillé, tellement recherché, que je me demandais de quelle façon vous écriviez. Et alors, je me dis que, je ne sais pas ce que vous avez coupé dans la théorie de l'information avant de le publier, mais c'était tellement riche, tellement précis, tellement extraordinairement pointu, que je serais curieux de savoir combien de signes faisait le manuscrit à l'origine.
Moi, j'ai toujours été très admiratif quand je lisais surtout des essais de sciences humaines, des essais de philosophie, par l'incroyable gymnastique intellectuelle de l'auteur. Et bon, je ne dis pas que j'ai atteint ça, mais en fait, je découvre qu'il y a quand même beaucoup de trucs. Et le truc principal, c'est que la littérature, c'est vraiment, vraiment un sport. C'est un peu au-dessus des mots croisés, sans doute, mais ce n'est pas beaucoup au-dessus du cyclisme ou de l'athlétisme. On développe vraiment très fortement son cerveau, mais on le développe dans un temps micro-limité. Et on essaie de développer en parallèle le cerveau du lecteur pour que les deux marchent ensemble, parce que ça ne faut pas être plus intelligent que son lecteur. Et il se trouve que j'ai l'impression, en tout cas, quand j'écris, que j'augmente mon intelligence. Ça retombe, aucune inquiétude, ça retombe très très bas après. Mais l'exercice fait qu'il y a une sorte d'intuition à sixième sens qui se développe, et puis on a une pensée abstraite très très rapide. C'est un peu comme un aimant, quoi. Quand on met beaucoup de bobines, au bout d'un moment, ça attire les éléments et ça a tendance à marcher tout seul. Chose qu'on n'atteint pas tout le temps, mais que j'ai eu la chance d'atteindre, en tout cas dans l'écriture, plusieurs fois. Ouais.
Lucille.
Justement, cette bobine, ça me fait penser à quelque chose qui est frappant quand on lit le roman. C'est le mot mécanisme qui revient en permanence. Il y a le mécanisme de l'apocalypse à venir. Il y a les mécanismes fabriqués par les enfants dans la ferme familiale. Il y a même ce mécanisme automobile qui tue la femme du marquis, qui devient un pendentif au cou de sa fille. Et au vu de la construction justement extrêmement élaborée du roman, on comprend qu'il y a aussi un mécanisme littéraire. Comment est-ce que vous le décririez ? C'est une montre ? C'est...
Mon roman précédent, La théorie de l'information, tournait autour de l'impossibilité du mouvement perpétuel ou sa possibilité restreinte dans le champ très précis de l'informatique. Là, c'est plutôt une machine à entropie rapide, donc qui serait vraiment l'inverse d'un mouvement perpétuel. C'est le moment de cassage entre les rythmes humains et les rythmes naturels, en gros, que je fais remonter au néolithique, le moment où la domestication des céréales permet un détachement de la culture humaine des rythmes tout simplement du soleil ou des saisons et de l'année. Et à partir de cette micro-cassure qui se produit il y a quelques milliers d'années, l'histoire humaine va décoller brutalement et on ne sait pas où elle va retomber. Donc c'est vraiment l'histoire d'une machine qui s'emballe et le bouquin, avec son titre très géographique, L'aménagement du territoire, le vrai thème est peut-être plutôt l'accélération du temps et le vraiment moment de dérapage de ça. D'où justement ce petit objet, un moment en pendentif, qui est l'injecteur d'une Mercedes 300 SL, qui a été la première voiture à innover, à remplacer les soupapes par des injecteurs. Ce qui a l'air d'être un détail, parce que bon, c'est l'automobile, c'est déjà un petit peu vintage comme domaine, mais c'est une des 3 ou 4 grandes révolutions dans la technique, en tout cas des moteurs thermiques, qui a été la grande technique du XXe siècle.
Quand on lit le titre « L'aménagement du territoire », on pense à un autre roman publié il y a quelque temps qui était « La carte et le territoire ». Et en 2010, ce n'est pas innocent, vous aviez publié un essai « Houellebecq, écrivain romantique ». Et il y a quelque chose de Houellebecq dans votre écriture, que vous revendiquez d'ailleurs dans les entretiens, à la différence près que quand vous avez écrit dès le premier roman, vous écrivez sans le romantisme. C'est une dimension dont vous vous défiez, Aurélien Mélanger.
C'est assez bizarre. Ouais. J'y réfléchissais justement aujourd'hui et je me disais qu'il y avait
ça tombe bien.
Une sorte de... Les romans, c'est des histoires humaines et puis elles sont parfois un peu crevées de considérations métaphysiques et l'histoire humaine sert à quelques petits flashs métaphysiques. C'est la mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï. Mmh. On a des flashs comme ça sur ce que c'est que la vie, ce que c'est que la mort, ce que c'est que l'existence. Moi, j'aurais tendance à quasiment inverser le processus, à mettre plein de métaphysiques avec des petits flashs humains, avec un côté... peut-être trop bon lecteur de Houellebecq, les poésies de Houellebecq qui décrivent un monde où tout est fini, où il n'y a plus que des machines, où des trains circulent dans une campagne dépeuplée, où ce genre de vision post-apocalyptique, qui serait aussi quelque part présente dans les romans très métaphysiques de Borges, où l'humain revient par flash comme ça, par réminiscence. Ouais.
Encore un indice houellebecquien, Lucille, que vous avez repéré. Moi, je n'avais pas compris, en effet.
Enfin, c'est léger. Revient robot, oui.
Revient robot, c'est la première phrase, non
moi,
pas du roman,
pas
mais en exergue.
C'est très houellebecquien, mais Laurent en plus, il me le fait.
Parce qu'il y a un chien dedans. Je n'avais pas du tout, d'ailleurs, je n'avais pas du tout fait le lien. Peut-être que vous pourrez raconter, parce que Lucille a réussi à savoir, qui est notre Agatha Christie à nous, a réussi à savoir d'où ça venait. Moi, je n'avais pas compris, en effet. Revient robot,
est-ce que je le dévoile? Parce que c'est la clé d'un des grands secrets du roman. Non, le chien d'un des découvreurs de Lascaux, dans les années fin 40, début 50, en fin 40, apogée un peu de la science-fiction, s'appelait tout simplement Robot. Et le chien qui part et qui disparaît à travers les ronces, en tout cas dans le récit officiel qui en a été fait, annonce l'une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps. Donc bon, voilà, gros indice sur la
suite. C'est une grosse indice, une grosse clé de lecture pour la fin.
Mais effectivement, j'ai beaucoup pensé à Houellebecq aussi par rapport à cet animal qu'on développe à côté de nous pour... une machine à synthétiser la tendresse, en fait, à synthétiser la tendresse et l'amour, et à peu près à faire que ça. Bon, elle vit pas assez longtemps, c'est pas encore parfaitement évolué, et je parle beaucoup de ça dans le bouquin, parce que la domestication des animaux, c'est aussi la domestication du chien, qui est le premier animal qui n'existe pas. C'est un loup qu'on a humanisé, et avec des petits signes, par contre, qu'on arrive à la fin, bon, caricature, on connaît tous des gens qui se promènent dans les parcs avec des chiens dans des poussettes, ou des gens âgés qui parlent à leur chien comme si c'était un enfant. Et ces chiens deviennent méchants. Et donc, finalement, cette machine à synthétiser l'amour se met à mordre et à défigurer le visage des enfants, etc. Ce qui sera un micro-signe de fin des temps, ou en tout cas de fin d'un cycle de l'humanité.
Oui, j'ai bien eu raison d'aller dans cette voie, Lucille. Vous avez quelque chose de plus intéressant
peut-être à poser comme ça. Sérieux.
Le chef a toujours raison.
Oui, évidemment.
Mais ça, je peux vous prouver. On devrait l'écrire en lettres d'or. Mais pour moi, le bureau est l'école de l'humilité. Allez-y, Lucille.
Aurélien Bélanger, vous revendiquez à plein votre usage du web. Vous allez sur Wikipédia en permanence pour nourrir votre écriture. Je me demandais comment ça se passe concrètement. Est-ce que vous avez d'abord l'idée, puis vous vérifiez? Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que le web fonctionne comme un lieu d'inspiration? Ou est-ce que c'est un outil de vérification pour vous?
J'essaie toujours de me faire croire à moi-même que je suis très structuré et donc j'ai plein de dossiers, de choses que j'extrais d'un peu partout, essentiellement du web et que je stocke sur mon ordinateur et puis en fait j'y touche plus jamais et donc soit je m'en rappelle et je les fais réintervenir et dans ce cas-là ça me relance sur une recherche, soit j'y touche plus, donc c'est plutôt, non c'est vraiment un accompagnement. Après j'ai quand même beaucoup moins utilisé Wikipédia et le web pour ce roman parce que je voulais... Il faut que je fasse attention en vieillissant parce que du coup, je vais un peu perdre comme ça toute actualité. Mais ce qui m'intéresse moins que les sciences, c'est la façon dont je me souviens des sciences, moins que dire la vérité sur un petit sujet de physique quantique. M'intéresse ce que j'en ai appris quand j'avais 12-13 ans en lisant un magazine scientifique. Et ce filtre personnel, je l'ai beaucoup plus utilisé que dans le premier roman. Ouais. Donc, je ne sais pas, il y aura une petite tiraillement entre les deux techniques.
Ouais. Je voulais revenir plutôt sur une dimension qui apparaît encore dans ce deuxième roman. C'est, je parlais de l'antiromantisme, mais aussi un antilyrisme dans votre façon d'écrire. Et notamment, vous avez toujours du mal, et d'ailleurs on le lit dans les entretiens, et ça se vérifie encore ici, à écrire des dialogues. Qu'est-ce qui résiste chez vous pour que cette forme n'apparaisse pas ou si peu? Ou quand elle apparaît, ce sont des faux dialogues d'ailleurs.
Oui, des monologues essentiellement, ouais. Ou des trucs rapportés. Je ne sais pas, ça sent le... C'est un thème quand même assez général et qui n'est pas propre à moi, mais le triomphe du romanesque, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il va s'arrêter un jour ou qu'il a peut-être déjà eu lieu. Et on voit que les romans dont on parle le plus depuis quelques années ne sont pas des romans, sont des récits avec, je pense à des gens comme Carrère, par exemple, qui n'écrit plus de romans depuis quelques années et on continue à appeler ça des romans, etc. Il y a un refus du truc, à côté de ça, un refuge dans des gens. Les gens s'intéressent de plus en plus aux arts populaires, aux arts mineurs, au cinéma, à la bande dessinée, etc. Mais ils pensent que l'art sérieux n'a plus le droit à ces trucs. Donc ces machins ont vieilli, il faut inventer autre chose. Donc je continue à croire au roman, mais c'est quelque chose dans lequel j'ai plus le droit de croire au premier degré. Donc sans non plus revendiquer une postmodernité un peu pénible où je me regarde n'y croyant plus, je continue à croire à ce que j'écris, mais effectivement j'ai du mal à utiliser toute la palette. Ouais. Je pourrais pas écrire Anna Karenine.
Alors comme tous les jours, maintenant on demande à nos invités de venir avec un son qu'ils veulent écouter, et vous avez choisi ça. Identification du son, Aurélien Bélanger.
Indiana Jones, la musique d'Indiana Jones, c'est vraiment le point d'asymptote, ce que j'essaie de rejoindre, cette frénésie et ce plaisir absolu. Ça reste encore mes meilleurs souvenirs de cinéma, et même le quatrième Indiana Jones, que personne n'aime, je l'aime beaucoup. Ça reste pour moi inégalable, et en même temps, je sais que ce n'est pas ce que je vais faire, et je ne le ferai jamais, et je n'atteindrai jamais ce niveau d'entertainment. Mais voilà, en plus, comme mon roman parle beaucoup de l'archéologie, Et avec cette blague qu'on voit partout, dès qu'on entend parler un archéologue, il finit toujours par s'excuser, ça n'a rien à voir avec Indiana Jones. Moi, c'était amusant de réinjecter un peu d'Indiana Jones dans l'archéologie, en disant l'archéologie non seulement est en conflit direct aujourd'hui avec l'histoire, il se passe quelque chose d'important, d'un glissement entre science humaine et science dure, mais l'archéologie est encore capable de découvertes fabuleuses qui peuvent changer le cours de l'histoire. Ouais.
Lucille.
Aurélien Bélanger, pardon, vous avez commencé une thèse de philosophie quand vous étiez plus jeune, et puis vous bifurquiez avec des petits boulots. J'ai lu magasinier chez Royal Canin, manutentionnaire dans un supermarché. Qu'est-ce qui ne vous convenait pas dans le système universitaire ?
L'absence de transpalette et de...
Ça, je confirme.
Et de chien.
Non, c'est une... Enfin, c'est pas du tout une douleur, mais j'étais pas bon à l'université et j'étais pas bon et j'ai toujours et encore aujourd'hui un respect très grand pour l'université. Je reste persuadé que professeur d'université est l'un des plus beaux métiers du monde. Et j'essaie de réatteindre un peu cet idéal perdu par des romans qui sont une façon un peu de restaurer bah, un peu l'humanité, enfin, l'université perdue de Victor Cousin ou un truc un peu 19e-iste avec un classement très strict des sciences, une inter-truc. Voilà, mais j'étais pas bon, j'étais techniquement pas bon, j'étais en philosophie, pas bon en logique, mauvais quoi.
J'ai lu aussi que vous aviez fabriqué des blindés pour des banques.
Je
vois même pas ce que ça veut dire.
C'était des missions d'intérim de quelques jours. C'était fabriquer des portes avec 4-5 couches de verre qui résistent à l'attaque d'un lance-roquette, par exemple. C'était un peu disproportionné, mais moi, je collais le truc. On faisait descendre le truc entre deux rails. Mais ce qui était assez impressionnant, c'est que la petite société avait un showroom où ils avaient essayé une quarantaine d'armes différentes sur leurs portes blindées. Ouais.
Dernière question, Lucille.
Vous semblez toujours un peu inquiet, puis vous parliez tout à l'heure d'Emmanuel Carrère. Pour l'avenir du roman, vous dites que c'est une enclave et qu'il faut la préserver. Qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui, le roman, en France ?
La disparition des lecteurs.
Ah oui.
Enfin, pour moi, c'est là, le truc le plus inquiétant, fragmentation de l'attention qui est totale. Personnellement, je lis beaucoup moins qu'il y a 10 ans. Mon entourage lit beaucoup moins qu'il y a 10 ans. Tout le monde lit beaucoup moins qu'il y a 10 ans, j'ai l'impression.
On lit, mais autre chose. D'une autre façon.
Bah, le...
Sur Internet, on n'arrête pas de lire.
C'est ça, oui. Et paradoxalement, on est plus attiré. Enfin, BuzzFeed est meilleur que. C'est triste à dire, mais en attention, voilà, BuzzFeed est meilleur que la totalité de l'édition française. Après, en contenu, la totalité de l'édition française est bien supérieure à BuzzFeed, mais. En truc catchy comme ça, BuzzFeed nous a battus. Ouais.
Qu'est-ce que c'est BuzzFeed ?
Un des sites internet les plus débiles au monde, constitué de listes et de les 10 choses que vous ne savez pas si vous mangez des haricots, par exemple. Et on ne peut pas s'empêcher de cliquer tout de suite. Et on est déçu aussitôt, mais bon, le rapport frénésie-déception est tellement rapide qu'on ne s'en rend même pas compte. Ouais.
Laurent Guimier ?
Oui, je vais sur BuzzFeed. Oui. C'était un peu votre question, c'est ça ?
Non, je vous voyais très intéressé à ce moment-là. Je me suis dit, très intéressé tout le temps, mais là, précisément, donc je me suis dit, quelque chose se joue pour lui.
Parce qu'on interroge tous aussi sa façon de lire. Moi, j'ai lu un peu plus qu'il y a 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, je lis sur tablette. C'est aujourd'hui la notion de livre. Enfin, l'objet tablette, moi, me permet de réingurgiter, de transporter une bibliothèque avec moi. Enfin, je parle sur un plan purement pratique. Les technologies actuelles me permettent, moi, de redevenir le lecteur que j'avais un tout petit peu cessé d'être.
On peut comprendre aussi le format de votre livre qui est toujours assez épais, comme le premier, comme une sorte de résistance, justement, pour préserver encore le roman. Est-ce qu'un roman court, un texte court, c'est quelque chose que vous pourriez envisager, Aurélien Bélanger ? Parce que la question du format se pose aussi quand on écrit.
Non, je ne me vois pas. Là, en plus, mes deux livres, je les mets à côté, ils se ressemblent.
Exactement.
Et ça me rend très heureux. Donc, je me vois continuer comme une sorte de. Comme toutes les Audi ou toutes les BMW se ressemblent. J'ai envie que tous mes livres se ressemblent. Donc,
la gamme.
Je ne me vois pas arrêter. Après, non, c'est un truc qui reste quand même assez marquant pour moi, c'est l'abandon du roman par Julien Gracq, par exemple, et ses courts fragments ou ses variations géographiques que je trouve magnifiques. Je me vois bien vieillir comme ça, mais tout pendant que j'ai l'énergie, 500 pages, même pagination, titre abstrait, encore une dizaine, j'espère.
Le rendez-vous, la chronique.
Ensuite, on accueille un nouveau venu dans le rendez-vous, mais une voix bien connue des auditeurs de France Culture, c'est Xavier Delaporte pour sa première chronique du jeudi, Place de la Toile, en partenariat avec Rue 89. Bonsoir et bienvenue Xavier.
Bonsoir, Laurent.
Le motif, ce sera la canne à selfie. Je sais que c'est un autre nom, mais je l'appelle comme ça.
Appelez-le comme ça. Ouais, parce que c'est pas tous les jours, figurez-vous, qu'on assiste à l'apparition d'un nouvel objet. Si vous voulez, bien que je ne sois pas certain d'ailleurs que ça vous passionne, mais je peux dater très précisément le jour où il est apparu dans ma vie.
Soyons précis.
C'était le dimanche 27 juillet, aux alentours de 14h.
Cette année,
oui, c'est tout récent. Alors que je buvais tranquillement un Diabolo Monde, figurez-vous, place de la Sorbonne, avec Aurélie Charron.
Qui est une des voix aussi.
Une des voix de France Culture.
L'été, vous n'avez rien d'autre à faire que de boire des Diabolo Monde avec Aurélie Charron.
Alors, si vous voulez, Laurent, en torpiller ma première chronique dès la quatrième ligne.
Allons-y, libre.
Hein. Et donc, je buvais un très bien déblement. Et puis, j'ai vu un groupe de touristes asiatiques s'approcher. Et une femme s'est placée dos à la Sorbonne. Elle a tendu une sorte de perche devant elle, une perche sur laquelle était accroché un téléphone portable, équipé d'un appareil photo. Donc, et cette femme a déclenché l'appareil de sorte à s'auto-portraitiser avec un arrière-plan, la Sorbonne. C'était donc l'entrée dans ma vie de la canne à selfie, le selfie désignant évidemment cet autoportrait fait par téléphone portable. Et puis, au cours de cet été, dès que j'ai fréquenté un lieu un peu touristique, j'ai vu au moins une personne dotée de cet instrument. Alors, si j'avais des tendances racistes, mais comme ce n'est pas le cas, je peux le dire, je dirais que j'ai surtout vu des touristes asiatiques avec ce type d'objet, pour une raison que je ne m'explique pas. Et je pense qu'il ne faut pas chercher. Pour être précis, donc, il ne faudrait pas dire canne à selfie, mais selfie stick. Le bâton à selfie, c'est le nom communément donné à cet objet, qui... vous pouvez vous désormais vous procurer sur bien des sites internet. Alors, il existe différentes couleurs. Ça vous coûtera aux environs de 30 euros. Si vous le choisissez avec le déclencheur Bluetooth, qui vous permet de ne pas avoir besoin du minuteur, donc, mais d'effectuer le cliché sur l'instant, hein, dans une expérience qui se rapproche le plus du selfie. Alors, c'est intéressant, me semble-t-il, à plusieurs niveaux. D'abord, il faut que j'avoue, alors c'est une fascination personnelle, j'ai toujours trouvé l'humanité admirable, notamment pour une chose, c'est pour son aptitude à créer des objets pour chacun de ses besoins, même les plus contingents. C'est-à-dire, je me souviens que tout jeune garçon envoyé pour la première fois en vacances aux États-Unis, la seule chose que j'avais trouvée vraiment intéressante dans ce pays, c'était une louche spéciale à spaghettis que j'avais rapportée à mes parents d'ailleurs. Mais si, ce qui est
toujours très autofiction, on est toujours au bord de l'autofiction. Hein,
c'est pas de l'autofiction, c'est vraiment pour le coup c'est de l'autobiographie. Parce que ce qui était fascinant dans la louche à spaghettis, c'était qu'un objet si évident, si utile, n'existe pas en France où depuis je sais pas combien de dizaines d'années, on galérait donc pour servir les spaghettis sans penser à utiliser autre chose que des fourchettes et des cuillères. Et c'est l'exact inverse qui suscite l'admiration dans le cas du bâton en selfie, à savoir le laps de temps extrêmement court qu'il a fallu entre la massification de la pratique, qui date à peine de quelques mois, hein, genre 1 ou 2 ans maximum, et l'invention d'un objet qui répond aux besoins propres à la pratique. Bon. Objet qui permet un meilleur cadrage, hein, évidemment, une présence plus forte du second plan, tout ce qui est nécessaire aux touristes en particulier. Ensuite, et c'est un corollaire, l'objet, conçu au départ comme un simple adjuvant, une sorte de prothèse un peu ridicule, engendre des usages propres. C'est-à-dire, dans le cas du bâton à selfie, il a permis l'apparition de nouvelle catégorie de selfie, car vous le savez, comme moi, il y a des catégories de selfie. Les sous-cultures ont toujours des catégories. Par exemple, la plus connue, c'est le duck face, soit la face de canard, hein, où vous avancez les lèvres pour donner à votre visage, comme ça, la forme d'une face de canard. Donc, hein. Le bâton à selfie a donc permis qu'apparaisse le selfie où des gens ont des têtes moins bizarres que de les autres selfies, mais où le premier plan de la photo est constitué par une tige tendue au bout d'un bras qu'on voit évidemment dans le cadre. Bon. Ce qui est très bizarre, ça fait penser à rien du tout de connu, ça transforme le personnage qui s'est photographié lui-même en une sorte de mélange entre un mousquetaire qui lancerait son épée et un aveugle qui foutrait un coup de canne à quelqu'un qui essaye de le photographier. C'est très étrange comme dispositif. Néanmoins, il me semble qu'on peut dès aujourd'hui prédire la caducité de cet objet. Je vois au moins 2 raisons à ça. La première, c'est que il existe une loi, hein, qui veut que toute activité humaine entraîne immédiatement son revers. Ça peut se manifester sous la forme d'un détournement ou d'une fraude. Ainsi, selon cette loi immuable, dès l'été prochain, nous aurons vu apparaître une nouvelle forme de délinquance, c'est-à-dire des voleurs spécialisés dans le vol de téléphones accrochés au bout de la canne à selfie. Une délinquance très ciblée, certes, hein, de niche, mais sans grand risque. La seconde raison, elle est plus fondamentale à mon sens, et elle tient en une formule, à mon avis, Laurent.
Oui,
je vous le dis là comme ça, c'est un...
Oui, grosso modo.
Le selfie est mort. Ah. Il est mort cet été avec la fameuse histoire du macaque qui s'est emparé d'un téléphone portable et qui a fait de lui un magnifique selfie. Comme toujours, le débat s'est focalisé sur des questions de droit. Qui appartient à la photo, au domaine public, au propriétaire de l'appareil, sans que personne d'ailleurs se demande si c'était pas le singe finalement qui était propriétaire de la photo. Et alors, même que le vrai débat aurait dû être ailleurs, pouvait-on encore et pourra-t-on encore faire des selfies alors que le selfie le plus parfait, le mieux cadré, le plus souriant, le plus soucieux du second plan était l'œuvre non d'une starlette ou d'Hulienne, non d'un enfant de cœur du pape François ou d'un journaliste du Monde dans le bureau ovale, mais celui, donc l'œuvre d'un macaque indonésien. Mon hypothèse est donc qu'un art qui est porté à son acmé par un animal devrait cesser assez vite d'intéresser les êtres humains.
Brillant. Alors là, Laurent Guimier.
Rien à dire.
Rien à dire.
Non, je découvre l'existence de la canne à selfie.
Et il fallait être
très jaloux
juillet.
Parce que sur France Info, on n'en a pas encore parlé.
Mais regarde, aller dans les lieux touristiques, c'est frappant.
Oui.
Le rendez-vous de Laurent Goumard sur France Culture.
Plateau continue avec vous, Laurent Guimier, journaliste et nouveau directeur de France Info depuis mai dernier. Vous êtes un ancien d'Europe 1, vous avez fait une grande partie de votre carrière et du quotidien Le Figaro. Vous avez dirigé son site internet. Vous venez donc de prendre la tête de la chaîne d'information continue de Radio France afin de la transformer. Et cette transformation a commencé lundi avec, on l'entendait en ouverture, un tout nouvel habillage. Fini donc la célèbre mélodie créée en 97. La disparition de ces notes mythiques, c'est votre choix ?
Oui, c'est le choix d'évoluer. Les trois premières notes sont conservées, mais effectivement, c'est un choix lourd hein, parce qu'on a décidé de rompre avec ce jingle, ce générique historique. Au bout de 27 ans, je pense qu'on peut... On peut utiliser l'adjectif. Donc, ça fait parler. Hein.
Il y a eu beaucoup de réactions.
Il y a quelques dizaines de mails qu'on a reçus. On a aussi pas mal de gens qui disent que c'est bien de bouger, de changer. C'est normal qu'on concentre beaucoup d'attention sur cette question. La question de l'habillage, c'est quelque chose d'important parce que moi, j'ai toujours considéré dans tous les médias dans lesquels j'ai travaillé que l'information doit être bonne, mais elle doit être belle aussi. C'est-à-dire que vous travaillez en presse écrite. Moi, j'ai travaillé au Figaro, vous l'avez dit. J'ai toujours travaillé avec des directeurs artistiques. Et la qualité du grammage, la taille des polices, la graisse d'un papier, d'une attaque, c'est très important. Et en radio, le fait d'avoir un habillage, comme on dit, de bonne qualité, très très travaillé, qui a d'ailleurs été fabriqué dans ces murs, hein, dans un studio de Radio France, avec 35 musiciens, 35 cordes, c'est quelque chose de très important.
Il y avait un cahier des charges pour ces transformations de l'habillage ?
Oui, bien sûr. Il y a eu un appel d'offres, d'ailleurs, qui me précède. Hein. Je suis arrivé il y a trois mois. Je n'ai pas dit il y a trois mois, allez hop, on change tout. Mettez les musiciens dans le studio, on y va. C'est un appel d'offres. Ça a duré 8 mois au total. Un compositeur a gagné l'appel d'offres. Et puis, on a travaillé ensuite, là, pour le coup, pendant des mois, y compris avec les présentateurs de France Info, pour que les voix et la musique se mixent.
Benoît Lagan.
Alors, c'est Mathieu Gallet, le président de Radio France, qui a fait appel à vous. Vous l'aviez rencontré à l'INA, dont il était le président. Et vous avez souvent échangé avec lui sur les questions d'information, de temporalité de radio. C'est ce que vous expliquiez il y a quelques jours au quotidien Libération. Quelles questions précises avez-vous abordées ensemble qui ont pu nourrir ensuite votre réflexion commune sur la réforme de France Info ?
C'est la question justement de la chronologie et de la concurrence entre les médias. C'est-à-dire que vous avez dit effectivement on s'est rencontré à l'INA. L'INA qui est une maison dans laquelle on travaille beaucoup dans les racines, dans les archives, dans le passé et qui en même temps se projette toujours au quotidien parce qu'elle est capable de sortir des archives à tout moment pour éclairer le quotidien. Ça a été la base de notre discussion. Et ensuite, on a beaucoup échangé sur cette question de concurrence et de chronologie des médias. C'est-à-dire que la radio, qui existe depuis une centaine d'années, a précédé la télévision, mais existe toujours. La presse écrite a précédé la radio, mais elle existe toujours. Après, la question est aujourd'hui que, depuis une quinzaine d'années, depuis 10 ans, on va dire, enfin, je parle sous l'autorité de Monsieur Bélanger aussi, tout a été changé, tout est fondu aujourd'hui, tout se mélange. On a beaucoup parlé avec le président Mathieu Gallet de la façon dont les personnels, les journalistes notamment, ressentaient cette question de façon très douloureuse souvent au sein des rédactions. Parce que lorsque l'on est dans un média, un vieux média comme on dit, il y a les nouveaux médias qui arrivent et on a toujours l'impression qu'on va être débordé. On a toujours l'impression qu'on va être incapable de s'adapter ou qu'il va être très très compliqué de s'adapter et que les jeunes vont remplacer les vieux et que tout est perdu. Et moi, depuis que j'ai basculé dans le web il y a 10 ans, j'ai toujours réussi, ou en tout cas j'ai essayé, de rendre un peu de confiance aux journalistes en leur disant que le problème, ce n'était pas les tuyaux, c'était l'information qu'on faisait.
Alors justement, parmi les décisions prises, vous avez aussi divisé quasiment par deux le nombre de chroniques. Il y en avait 90, il n'y en a plus que 45 pour faire un peu plus de place à l'actualité chaude.
Oui.
La forme chronique ne le permet pas.
Non, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on est sur une chaîne d'information, on travaille sur un flux d'information en continu. Et donc, l'antenne de France Info est un flux d'information en continu qui doit le plus rapidement possible et de façon la plus facile possible accueillir l'information sur l'antenne. Et lorsque vous avez une programmation qui est constituée aux deux tiers de chroniques qui ont été installées à une heure précise, il est très compliqué. Et je me mets à la place de mes prédécesseurs et des directeurs d'antenne précédents. Il est très compliqué de dire cette chronique ne passera pas parce qu'il y a l'information qui arrive. Et donc, j'ai préféré réduire sensiblement le nombre de chroniques pour permettre à la rédaction de France Info et à tous les journalistes de Radio France, d'ailleurs, de se réapproprier cette antenne pour y faire juste leur métier, c'est-à-dire de l'information.
Est-ce qu'il y a des réactions de la part d'Aurélien Mélanger par rapport à ce qui a été dit ou...
Non, j'ai toujours écouté beaucoup France Info et j'avoue, mais j'étais peut-être pas assez concentré, que je n'avais pas réalisé qu'il y avait eu des changements pareils, mais c'est peut-être des changements continus comme ça.
Ils viennent juste d'arriver, surtout.
C'est depuis lundi.
D'accord, bah c'est pour ça. J'ai pas écouté France Info cette semaine, pardon.
Votre ambition, Laurent Guimier, je vous cite, être très performant sur l'alerte, le breaking news, c'est-à-dire l'actu en direct qui peut bouleverser un programme. Alors comment ça va se traduire précisément à l'antenne, sans tomber par exemple dans le remplissage de la chaîne d'information continue, style les dérives lors de la première guerre du Golfe qui ont été beaucoup parodiées, où on voit des correspondants en direct pour meubler et qui expliquaient qu'ils ne savaient rien. Comment vous allez faire justement pour éviter ça?
On va l'éviter parce que d'abord il y a eu la guerre du Golfe et qu'on va essayer... encore une fois, d'améliorer la façon de faire de l'information et puis aussi s'approprier d'abord notre façon de faire de l'information. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de moyens aujourd'hui dans une maison qui s'appelle Radio France. Il y a à peu près au total 700 journalistes qui travaillent entre France Culture, France Bleu, France Inter, France Info. Et cette chaîne d'information doit permettre à tous ces journalistes d'enrichir la façon de faire de l'information. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une question de moyens, de penser l'information. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la question de ce porte-hélicoptère, le Mistral, que les Français vont livrer, mais un peu plus tard que prévu. On a la capacité, nous, parce qu'on a des correspondants à Moscou, qu'on a des envoyés spéciaux et des reporters en Russie, et qu'on a aussi la capacité de faire intervenir des experts, je pense, de faire une proposition d'information qui soit enrichie et qui ne soit pas que, comme vous le dites, du remplissage, on va dire du commentaire d'experts plus ou moins performants, pour, encore une fois, combler une antenne et répondre à cette question, à la demande des auditeurs. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a l'enjeu numérique aussi, parce qu'aujourd'hui, on parle de radio, là. Le pari que je fais, parce que je le pratique comme ça depuis maintenant 10 ans aussi, je pense que le numérique enrichit, est capable d'enrichir un média, si on est capable d'aller faire un peu d'orpaillage un peu partout, d'aller chercher sur les réseaux, d'aller piocher de l'information, on est capable d'enrichir l'antenne, là aussi, pour la renouveler un peu plus souvent que ça ne l'était jusqu'à présent. Il y a 15 ans, à France Info, mais ailleurs, on avait une source d'information en continu qui s'appelait l'agence France Presse. Aujourd'hui, on a 300 sources d'information en permanence, que sont les réseaux, les concurrents, Twitter, toutes ces sources d'information qu'il faut juste aller... chercher et qu'il faut aller vérifier ensuite.
Je me demandais aussi quelle place vous alliez accorder à l'investigation, sachant qu'un pôle a été créé au sein de Radio France, un pôle dirigé par Mathieu Aron, mais que la seule émission d'investigation est diffusée sur France Inter et pas sur France Info.
Non, pour une raison simple, c'est que ce pôle d'investigation dirigé par Mathieu Aron aura pour vocation de sortir des informations, comme on dit. Je pense qu'il n'y a aucune contradiction à sortir une information sur France Info et à permettre aux auditeurs qui en veulent plus de l'écouter ensuite sur France Inter. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on a fait la semaine dernière, interview du juge Lambert, le fameux petit juge de l'affaire Grégory, que Mathieu Aron a convaincu d'exprimer au moment où il part en retraite quelques-unes de ses convictions profondes et nouvelles sur le drame de l'épanche sur Vologne. On a alerté les auditeurs en passant une minute de cette interview le vendredi matin. Et puis le vendredi soir, l'émission de Mathieu Aron a été diffusée en longueur sur l'antenne de France Inter. L'idée, c'est tout simplement qu'on s'entende, que, encore une fois, la chronologie et le séquençage de l'information étant différents sur France Info et France Inter, lorsque l'info part d'un même pôle, d'un même journaliste, il est capable de s'exprimer sur deux antennes différentes.
Aurélien Mélanger, pour votre première entrée en écriture, en littérature, pourquoi avoir choisi le motif de l'information?
Parce que c'était une donnée physique nouvelle qui était apparue au XXe siècle et qui pouvait résumer la totalité des autres sciences. C'est un truc très très ambitieux. C'est pas exactement la même information que l'information dont il est question dans les médias.
Bien sûr.
Quoique, c'est quelque chose qui lève une ambiguïté ou qui crée de la surprise. Donc une bonne information, effectivement, c'est pas quelque chose qui revient, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Ouais.
Benoît.
Alors nous demandons chaque jour à nous inviter un son et votre choix, Laurent Guimier, nous a étonné. On écoute. C'est un extrait d'un film sorti en salle quand vous aviez 16-17 ans, 88.
Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, qu'à faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. T'as compris ? Parce que toi, tu as souvent l'air étonné, ton défaut. Tu vois ?
Oui.
Bon, on va faire un petit test. Tu sais que tu me plais bien, toi ? Voilà.
Mais oui, mais je sais pas si...
C'est ça, la chose étonnante.
C'est gênant, parce que je sais pas si vous êtes dans le test ou...
Ah non, on est dans le test, hein.
Oui, non, mais vous me dites...
Oui, mais ça devrait pas t'étonner.
Oui, d'accord.
Bon.
Identification du son, Laurent Guimier.
Itinéraire d'un enfant gâté, scène mythique entre Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina, où Belmondo, vieux patron de sur le retour, coach un jeune loup et lui apprend quelques règles de management, on va dire. C'est-à-dire de ne jamais avoir l'air étonné.
Qu'est-ce que cela dit de vous, cet extrait, Laurent Guimier ?
Bon, c'est un film qui résonne pour plein de raisons en moi, parce qu'il se passe en partie dans l'univers du cirque, qui est ma deuxième famille. Et puis qui dit, lorsqu'on est patron, d'un média ou d'ailleurs, que le fait de ne jamais avoir l'air étonné est important. Et qu'au fond, il y a souvent de la comédie, des rites. Et puis parfois, dans la confidentialité d'un bureau, aussi pas mal d'empathie entre des collaborateurs.
Quel est le rapport que vous entretenez avec le cirque ?
C'est ma deuxième famille, parce que je, depuis que je suis tout bébé, tout enfant, mon grand-père puis mon père m'ont fait, eux-mêmes amoureux du cirque, m'ont fait connaître cette culture, les gens du cirque. J'ai beaucoup d'amis dans ce milieu. Et alors après, je ne sais pas si c'est ça qui a fabriqué un état d'esprit parfois un peu nomade, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'aller explorer professionnellement des contrées qui ne sont pas celles pour lesquelles on a été fabriqué. Mais c'est quelque chose de très, très important pour moi.
Vous pratiquez des numéros ?
Non, 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 je ne suis ni clown, ni acrobate, quoique.
Benoît ?
En 87, quand France Info voit le jour, vous avez 16 ans et vous êtes déjà dans les médias, déjà journaliste et déjà dans une radio, puisque vous participez à la création de Cocktail FM, c'est
eh
ça ?
Oui, bien sûr.
À Lisieux. Quelle était la ligne éditoriale de cette radio ?
C'était une radio musicale à 90%. Et puis avec un copain, on avait convaincu les fondateurs, les cofondateurs de la radio, qu'il était très très important d'y faire de l'information. Et donc avec cet ami, qui d'ailleurs aujourd'hui travaille et présentateur à LCI, on faisait des flashs d'information, on faisait de l'information locale, on faisait des spéciales de 3 heures sur la politique locale lors des élections municipales. Et moi, ça m'a énormément appris, ça m'a appris à improviser devant un micro, ce qui après, lorsque je suis entré à l'école de journalisme, m'a fait progresser peut-être un peu plus vite que les autres.
Laurent Guimier, vous êtes celui qui a relancé le site web d'un vieux média papier, Le Figaro. Vous avez contribué à faire du web d'Europe 1 un lieu complémentaire à l'outil radio. Comment ce goût pour la culture Internet s'est-il imposé à vous ?
Totalement par hasard, mais c'est la curiosité. Enfin, je parlais de nomadisme, c'est curiosité. C'était en 95, j'étais à Europe 1 à l'époque. Et puis un jour, un gars qui s'occupait des nouvelles technologies, enfin on ne les appelait pas encore comme ça à l'époque, est venu avec Joël de René, est arrivé à la rédaction et il a dit « Tiens, on va vous présenter un truc qui s'appelle Internet et qui veut venir ?» Et en fait, on est deux à être allés voir sur les 120 journalistes et ils nous ont montré la page d'accueil de Yahoo à l'époque. Et puis voilà, c'est de fil en aiguille que ça m'a intéressé. J'ai passé beaucoup de temps sur le Minitel ensuite pour aller chercher de l'information.
Ça fait rire tout le monde. Hein,
bah oui, bien sûr, bien sûr. Minitel, dont il y a beaucoup de questions dans la théorie de l'information.
De rien mélanger.
Moi, j'ai toujours été très très connecté, mais aussi parce que j'ai toujours fait de la radio. Enfin, le direct, le fait d'avoir un fil continu avec l'information a toujours été quelque chose d'important pour moi.
Dernière question, Benoît.
Alors, sur Europe 1, vous animiez notamment une émission des clics et des claques. Vous l'avez créée en 2012 et vous soumettiez à vos invités leur ADN numérique afin de découvrir les traces que l'on laisse sur la toile. En fait, vous tapiez le nom de l'invité dans la barre de recherche de Google. Vous dressiez la liste d'occurrences que vous faisiez commenter à vos invités. Alors, on a fait la même chose. Et quand on tape aujourd'hui Laurent Guimier dans Google, votre nom est lié en premier lieu à Hanouna, puis à Twitter, puis à la formule « quitte les pieds dans le plat », puis enfin à France Info. Alors qu'est-ce que cela révèle de vous, Laurent Guimier ?
Ça révèle la saison que j'ai vécue l'année dernière, où sur l'antenne que j'ai quittée, j'étais à la fois dans un exercice le matin de fact-checking pur et dur, hein, je décryptais la parole politique, et puis je participais à une émission de divertissement avec Cyril Hanouna pendant une heure et demie tous les matins. Je ne suis pas schizophrène, enfin si, sans doute, mais j'ai toujours aimé, moi, appliquer ma rigueur sous des dehors un peu différents, tout simplement. Mais c'est pour ça que, évidemment, on retrouve ce nom à coller au mien sur Internet, et pour plein de raisons, j'en suis très fier.
Et vous avez vu, personne n'a l'air étonné. On a bien retenu la leçon de Claude Lelouch.
L'antenne de France Info est un flux d'informations en continu qui doit le plus rapidement possible accueillir l'information sur l'antenne.
Les 10 choses que vous ne savez pas si vous mangez des haricots, par exemple.
Merci à nos invités. Aurélien Bélanger, L'aménagement du territoire, apparu aux éditions Gallimard. Laurent Guimier, on vous souhaite une bonne rentrée pour la nouvelle grille de France Info. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain... Demain, musique et théâtre avec le pianiste Philippe Bianconi. À ses côtés, le comédien Robin Renucci. Des annonces, Hippolyte, avec le sourire, s'il vous plaît.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Comeau, Benoît Lagan, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilotte. Chronique Xavier Delaporte, Journal de la Culture Zoé Sfèze, à la technique Vincent René, à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez télécharger, réécouter, podcaster, commenter cette émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.